Il est donc l'heure du journal. Avec vous, Aurélie Kiefer, bonsoir.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. L'auteur de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg, toujours recherché. Il s'agit d'un homme radicalisé au lourd passé judiciaire. Nous irons à Strasbourg dans un instant et nous ferons le point sur l'enquête. À l'Assemblée, l'attaque de Strasbourg fait de l'ombre aux revendications des Gilets jaunes. Au reportage d'Alexandra Dubouchereau. Au Royaume-Uni, Theresa May compte ses soutiens. Soumise à un vote de défiance du Parti conservateur, la première ministre britannique risque son poste. La situation est grave, la Maison-Blanche est devenue un casino où parfois des décisions politiques très importantes se prennent comme sur un coup de dé. C'est ce que nous confie le journaliste américain Bob Woodward 2 semaines après la sortie en France de son livre « Peur, Trump à la Maison-Blanche ». La capitale alsacienne plongée dans le deuil et dans l'inquiétude. À Strasbourg, le marché de Noël est fermé, la manifestation de lycéens et d'étudiants a été annulée et les habitants sont invités à rester chez eux dans la mesure du possible. 2 personnes sont mortes, 1/3 est en état de mort cérébrale après l'attaque menée hier soir par un délinquant radicalisé. L'homme est toujours en fuite et l'atmosphère est très lourde à Strasbourg où l'on retrouve Grégoire Le Callot.
À la nuit tombée, des centaines de petites bougies viennent s'ajouter aux illuminations de Noël dans la capitale alsacienne. Sur la place Kléber, près de l'immense sapin et ses boules décorées, une foule d'anonymes vient rendre hommage aux victimes, le visage grave. Hommage aussi à cette ville qui fait partie d'eux-mêmes. Yanis a le cœur serré en voyant sa physionomie aujourd'hui.
Ça se ressent dans les rues et dans le tram. Ça se voit qu'il s'est passé quelque chose. Il n'y a pas autant de monde que d'habitude. Et voilà, ça se voit que tout le monde est un peu concerné par ce qui s'est passé hier. Ça se voit sur leur tête, ouais, c'est ça. C'est différent de ce qui se passe d'habitude. Quand on entend ce genre d'événement, quand ça concerne sa propre ville, ça affecte différemment.
Toute la journée, près de 650 agents des forces de l'ordre et soldats de sentinelle ont quadrillé la ville, armés, rappelant que le tueur court toujours. Mais ça n'a pas suffi à rassurer Sylvie.
Il n'y a pas de forces de l'ordre, moi je les vois pas. Donc moi ça me met pas en sécurité. J'ai peur, beaucoup de peur même. On regarde de à droite, à gauche. On s'est couché tard, mais ça va. On n'a pas le choix. Il faut continuer à vivre.
Les fouilles de sacs étaient plus poussées sur les ponts du centre-ville et les baraques du marché de Noël sont restées closes en signe de deuil.
Les forces de l'ordre sont donc toujours à la recherche de Shérif Shekat, le braqueur de 29 ans radicalisé et fiché S. Bonsoir Thomas Larabi.
Bonsoir Aurélie Kiefer.
À ce stade, que sait-on de cet homme et des moyens mis en œuvre pour l'arrêter?
Alors ce que les enquêteurs ont rapidement pu trouver, c'est l'identité du suspect, très rapidement même, car celui-ci s'est assez longuement épanché auprès du chauffeur de taxi qui l'a déposé dans un quartier du sud de Strasbourg après la fusillade. Il lui a notamment révélé que des policiers avaient retrouvé chez lui une grenade. Ainsi, les enquêteurs ont pu immédiatement faire le lien avec une perquisition opérée le matin même au domicile de Shérif Shekat dans le cadre d'une enquête de droit commun pour tentative d'homicide. Les forces de police avaient notamment découvert une grenade défensive, donc 4 couteaux et une arme de calibre 22 long rifle. Ce qu'on a également, ce sont les motivations de Shérif Shekat. Le procureur de Paris, Rémy Hetz, a pris la parole à 12h30 et dès ses premières phrases, il n'a laissé aucun doute sur le caractère terroriste de la fusillade. On l'écoute.
Le terrorisme a une nouvelle fois frappé notre territoire à Strasbourg, nous rappelant de façon dramatique que la menace est toujours bien réelle. Au regard du lieu ciblé, du mode opératoire employé par l'assaillant, de son profil et des témoignages recueillis auprès de ceux qui l'ont entendu crier « Allah Akbar », la section antiterroriste du parquet de Paris s'est saisie des faits d'hier soir.
Le profil du suspect, il se dessine désormais assez distinctement. 29 ans, né à Strasbourg, délinquant multirécidiviste avec 27 condamnations de droit commun au casier judiciaire, notamment pour des faits de braquage et ceux dès l'âge de 13 ans. L'homme se serait radicalisé lors de ses séjours en prison. L'administration pénitentiaire a signalé en 2015 une radicalisation et une attitude prosélyte de Shérif Shekat durant sa détention. Il était donc fiché S, suivi par la DGSI. Mais selon plusieurs sources policières, aucun signe de passage à l'acte imminent n'a été détecté. Aujourd'hui, 720 membres des forces de l'ordre sont mobilisés pour retrouver le suspect. Selon Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, les frontières franco-allemandes sont bouclées, mais il n'est pas exclu que le fugitif ait déjà pu rallier l'étranger.
Thomas Larabi, depuis 2001 et le premier attentat déjoué sur le marché de Noël de Strasbourg, 36 profils djihadistes ont été recensés dans le Bas-Rhin. Alors pourquoi des filières djihadistes se sont-elles développées autour de Strasbourg? Écoutez l'analyse de Farhad Khosrokavar, directeur des études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, auteur du livre « Nouveau djihad en Occident » paru chez Robert Laffont.
Strasbourg, c'est des faits qui ne sont pas liés à la tolérance ou à l'intolérance parce que Strasbourg étant concordataire et encore plus tolérante, entre guillemets, que le reste de la France, ce n'est pas lié à la pauvreté, Strasbourg est une ville plutôt cossue, c'est lié à une histoire et puis à ce qu'on pourrait appeler la contingence des circonstances. D'ailleurs, si on prend encore une fois d'autres villes comme Marseille, où il n'y en a pas eu tellement, il n'y en a vraiment pas eu, et très peu, eh ben, on est étonné. Ville pauvre avec une centaine de cités qui sont quand même la concentration vraisemblablement la plus élevée des cités en France, eh ben, il n'y en a pas. Il y en a très peu. Et à Strasbourg, malgré le fait que ce soit une ville riche, etc., enfin bon, il y en a. Ce sont des faits, si vous voulez, qui sont liés à une histoire, à des complicités, à, mais il n'y a pas de causalité avec ce qu'on pourrait appeler la situation socio-économique de la ville.
Le sociologue Farhad Khosrokavar répondait à Didier Morel. À l'Assemblée nationale, un hommage a été rendu aux victimes de la fusillade de Strasbourg et une minute de silence a été observée en ouverture de la séance des questions au gouvernement, séance au cours de laquelle le débat sur le mouvement des Gilets jaunes a été quelque peu éclipsé par les questions sur l'attentat, Alexandra Dubouchereau.
Oui, 6 questions sur 15 ont porté sur l'attaque de Strasbourg, des questions sur les faits mais aussi sur les mesures prises par le gouvernement en matière antiterroriste. Première flèche décochée par le député Les Républicains Éric Diard.
Dans cette affaire, pourquoi a-t-on privilégié une approche de droit commun pour cet individu pourtant connu comme islamiste radicalisé ?
Merci,
ne faut-il pas privilégier la dangerosité religieuse radicale par rapport à une simple approche de droit commun ?
La parole est à Monsieur Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur.
Oui, il a été décidé d'entraver l'action de cette personne et la voie qui a été choisie est la voie du droit commun parce que c'était la seule qui était permise par les textes. Mais je suis désolé de vous dire que les fonctionnaires des services de renseignement ont fait le travail qu'ils ont pu et nous ne sommes pas arrivés à détecter de velléité de passage à l'acte.
Merci, monsieur le ministre.
Cet après-midi, beaucoup d'hommages ont aussi été rendus aux forces de l'ordre, aux secouristes. Certains ont donné lieu à des ovations debout, comme pour l'élu alsacien Bruno Studer. Et puis la voix tremblante, ce député de la majorité s'est indigné.
J'exprime notre honte et notre colère face à ceux qui crient au complot d'État et qui voudraient que ce soit la République qui ait organisé cet attentat. Cela, dans le confort indécent de leur anonymat sur les réseaux sociaux, font preuve d'indignité. Noël ne sera plus jamais comme avant à Strasbourg. Plus jamais.
Les Gilets jaunes étaient en toile de fond de ces questions au gouvernement. L'insoumis Jean-Luc Mélenchon défend l'Union républicaine, mais pas la trêve des manifestations.
Je crois utile de dire que ni les Gilets jaunes, ni la jeunesse mobilisée n'ont aucune responsabilité dans cette situation et qu'elles n'ont donc aucune raison de remiser leurs revendications.
Et oui, débattre, c'est la meilleure façon de lutter collectivement contre le terrorisme, acquiesce Édouard Philippe, alors que les députés de gauche se préparent déjà à la motion de censure qui sera débattue demain.
Alexandra Dubouchereau, certains gilets jaunes insatisfaits des mesures annoncées appellent toujours à manifester samedi. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, estime pourtant que le gouvernement a mis sur la table de quoi permettre l'ouverture d'un dialogue national et de quoi clore plusieurs semaines de débats dans la rue. À la sortie du Conseil des ministres, il a également livré quelques détails sur la concertation qui va s'ouvrir à partir du week-end prochain, Anne Fauquemberg.
Oui, car le Premier ministre Édouard Philippe a parlé ce matin du débat, un débat qui doit être foisonnant avec des cadres de concertation plus des groupes de réflexion initiés par des élus, des sollicitations directement sur le lieu de travail, mais aussi sur Internet. Quant au thème de ce débat national, il y en aura 5. La transition énergétique, la fiscalité et les dépenses publiques, l'organisation de l'État, la citoyenneté et, je cite, les inquiétudes des Français relatives à l'immigration dans un contexte de mondialisation. Un thème qui suscite depuis lundi, discours d'Emmanuel Macron, des critiques à gauche, mais aussi chez plusieurs associations comme SOS Racisme, un thème assumé ce midi par le gouvernement, explique Benjamin Griveaux.
Si on n'est pas capable de se parler entre nous d'un sujet dont on voit bien qu'il vient fracturer la classe politique européenne, qu'il suscite dans de nombreuses grandes démocraties occidentales l'arrivée au pouvoir, ou en tout cas aux participations au gouvernement, de partis extrémistes, ceux qui pensent qu'en ne parlant pas de quelque chose, on va éviter les problèmes, ceux-là se trompent. Donc nous, on mettra sur la table les sujets dont on ne veut pas qu'il soit instrumentalisé par d'autres. Et on l'a vu, les fake news relatives au pacte de Marrakech ont été légion depuis 15 jours, 3 semaines. En France, mais aussi à l'étranger, et parfois par des organes étrangers souhaitant influencer la vie politique européenne et française en particulier.
Voilà pour ce sujet de la migration avec l'exemple du pacte mondial de l'ONU pour des migrations sûres, ordonnées et régulières signé hier au Maroc. Et puis pour revenir sur la consultation et ses premiers détails, elle devrait entraîner le report de l'examen de la révision de la Constitution, initialement prévu en début d'année prochaine, afin de tenir compte du débat sur la représentation politique.
Anne Fauquemberg. 150 lycéens agenouillés, mains sur la nuque après leur interpellation par des policiers. Ces images filmées à Mantes-la-Jolie avaient profondément choqué la semaine dernière. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, avait estimé qu'elles étaient explicables compte tenu du contexte de violences urbaines avec des bonbonnes de gaz ouvertes sur des barricades en feu. Mais pour les jeunes du lycée Saint-Exupéry, comme pour leur famille, il y a bel et bien eu violence policière. Et cet après-midi, une centaine de personnes se sont réunies à Mantes-la-Jolie. Vous êtes sur place, Cécile de Kervès-Doué.
Lycéens humiliés par un mobilisé.
Dans le calme mais la tête haute, elles ne sont qu'une poignée, les mamans des 153 lycéens dont l'interpellation filmée a fait le tour des réseaux depuis la semaine dernière. Certaines sont encore trop émues, trop choquées pour me parler. D'autres au contraire racontent comment elles ont dû faire des kilomètres pour récupérer leur enfant, finalement relâché sans poursuite. C'est le cas du fils de Myriam.
J'ai retrouvé mon fils cerné, il a des yeux grands ouverts, effrayés. Il n'a pas repris les cours depuis, il me dit qu'il a peur. Avant d'être à genoux, ils étaient au sol, allongés, la tête dans la boue. Celui qui avait le malheur de bouger, c'était la gaz lacrymogène. Mon fils s'est mangé un coup de matraque à la nuque. Ce n'est pas des conditions légales d'interpellation.
Aux côtés des mamans, certains lycéens interpellés défilent eux aussi pour laver l'humiliation, explique par exemple Reda, élève de première qui est resté 24 heures en garde à vue.
Parce que ma mère, elle m'a dit, tu ne me parles plus de ça. C'est blessant en fait pour une maman. On n'a rien à faire à genoux, nous. Mais moi, si on ne s'attendait qu'à moi, soit je me serais vengé concrètement contre la police, soit sinon j'aurais fait un blocus encore. Jusqu'à qu'ils comprennent qu'on est pas des merdes, quoi. Même si après, on les a peut-être un peu caillassés.
Très nombreux aussi dans le cortège, les syndicats de profs et les professeurs des lycéens interpellés. François Aimer est professeur d'histoire-géographie au lycée Saint-Exupéry. Il assure que les lycéens n'étaient pas les fauteurs de troubles ce jour-là.
Là, on a l'impression d'avoir un rapport à l'institution qui est complètement dévoyé parce que le rapport que les élèves ont eu à l'institution au moment de cette interpellation est aux antipodes de ce que nous, on porte comme valeur. On a affaire à des enfants et ça, faut jamais l'oublier.
5 plaintes ont donc été déposées contre les forces de l'ordre. Une vingtaine d'autres plaintes est en préparation car pour Harry Halimi, l'avocat des familles des lycéens, ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie doit susciter une prise de conscience partout en France.
C'est pas la première fois qu'on fait subir ça en France à des enfants. Il y a bien évidemment un ciblage sur les quartiers défavorisés, mais on a également les mêmes comportements qui sont commis par les forces de l'ordre en maintien de l'ordre contre les gamins des quartiers riches. Donc il faudrait que le gouvernement reconnaisse ses torts. Parce que si le gouvernement disait « oui, effectivement, là, ça n'aurait jamais dû se passer comme ça », je pense que la population l'entendrait et qu'il n'y aurait pas cette colère.
Alors en attendant demain, les mamans qui ont marché aujourd'hui à Mantes-la-Jolie se relaieront à nouveau aux abords des lycées de la ville afin de pacifier les jeunes, car disent-elles, après des années de calme, l'ambiance à Mantes-la-Jolie serait redevenue explosive.
Cécile de Kervès-Doué en direct de Mantes-la-Jolie avec Stéphane Beaufils à la technique. La survie politique de Theresa May suspendue au vote des élus conservateurs. La première ministre britannique se dit prête à mener sa mission à bien, mais elle est visée par un vote de défiance, certains députés conservateurs lui reprochant sa décision de repousser le vote sur l'accord de Brexit. Theresa May saura en fin de soirée si elle a plus de détracteurs ou de soutiens. Alors qu'il est, Antoine Gignot, elle semble avoir une chance de sauver sa tête.
Absolument difficile d'avoir des certitudes parce que c'est un vote à bulletin secret, mais 170 députés conservateurs se disent prêts à soutenir la première ministre. C'est suffisant pour qu'elle reste en place, mais le scrutin risque d'être serré. Pour vous dire à quel point chaque voix compte, les responsables du parti ont décidé cet après-midi de réintégrer un élu qui avait été suspendu à cause d'une affaire de harcèlement sexuel et qui promet de voter pour Theresa May. En parallèle, les membres du gouvernement multiplient les déclarations. Philip Hammond, en charge de l'économie, traite les députés rebelles d'extrémistes. Je suis certain que la première ministre aura l'avantage, dit-il. Et puis il y a aussi ces messages de soutien des principaux donateurs du parti. Une défaite de Theresa May, disent-ils, permettrait à la gauche de prendre le pouvoir. Ce serait pire que tout. Car pendant que les députés de la majorité s'étripent, l'opposition en profite. Les conservateurs sont devenus fous, lance le chef de file des élus gallois. Theresa May, elle, reste pour l'instant très calme, son sourire et ses blagues pendant les questions question au gouvernement impressionne même une partie des élus, à l'image de Ruth Davidson, la patronne des conservateurs écossais, affiche elle aussi son soutien avec ce commentaire. La première ministre a des cornes en acier. Je vous laisse faire la traduction.
Merci Antoine Gignoux en direct de Londres. Pour l'épisode suivant de ce feuilleton britannique, rendez-vous à 22h avec le journal de Stanislas Vazak. Ambiance de fronde au Parlement hongrois. Viktor Orban y dispose d'une confortable majorité des deux tiers, ce qui lui permet de faire passer toutes les lois proposées par son parti. Mais les deux votes organisés aujourd'hui, l'un sur les heures supplémentaires, l'autre sur la justice, ont déclenché la colère de l'opposition et une manifestation est organisée ce soir. Florence Labruyère à Budapest.
C'est avec des sifflets et des sirènes d'ambulance que les députés d'opposition ont tenté de bloquer le vote devant un Viktor Orban imperturbable qui les regardait d'un air narquois. Le Premier ministre a appelé ses gardes du corps dans l'hémicycle et l'on a vu aussi apparaître la garde armée du Parlement. L'opposition est toutefois restée pacifique, mais elle n'a pu empêcher l'adoption des lois par la majorité de droite du Premier ministre. Les parlementaires ont voté sans leur carte électronique individuelle. La scène a d'ailleurs été filmée avec des téléphones portables. Selon les députés d'opposition, le vote est totalement illégitime. Sans carte électronique, il n'est pas réglementaire, car à ce moment-là, un député de la majorité peut très bien appuyer sur le bouton à la place d'un autre député qui est absent. La droite nationaliste de Viktor Orban a donc adopté deux lois. L'une crée une nouvelle cour suprême qui sera totalement contrôlée par le gouvernement. L'autre permet d'augmenter les heures supplémentaires dans le secteur privé jusqu'à 400 heures par an. L'employeur pourra payer ces heures supplémentaires 3 ans après qu'elles aient été effectuées. Des termes inacceptables pour l'ensemble des syndicats. Selon un sondage, 83% des Hongrois sont opposés à ce texte, surnommé la loi sur l'esclavage.
Florence Labruyère, correspondante de France Culture en Hongrie. Et avant de conclure ce journal, un entretien exclusif accordé par Bob Woodward à notre correspondant aux États-Unis. Bob Woodward, l'homme du Watergate qui a fait chuter Nixon, a publié un livre événement consacré à la présidence de Donald Trump. Et dans cet essai, intitulé « Peur, Trump à la Maison-Blanche », il décrit une administration américaine en plein chaos avec un président incontrôlable, y compris par ses plus proches collaborateurs, comme en témoigne le départ annoncé du général John Kelly, actuel chef de cabinet. Écoutez Bob Woodward.
Je pense que le pays traverse une crise importante. Nous ferions mieux de nous réveiller et de voir à quel point la situation est grave. La gouvernance de Trump, les problèmes économiques, les relations avec la Russie, la Chine, la Corée du Nord, il prend des risques. Un peu comme au casino, Trump est un joueur. Sur le fronton de la Maison-Blanche, on pourrait mettre une pancarte « Casino Trump ». Il a transformé la Maison-Blanche en un casino où parfois des décisions politiques très importantes se prennent, comme sur un coup de dé. Son ancien conseiller pénal, John Dowd, qu'il a assisté dans toute cette enquête russe, a travaillé au plus près de lui pendant 8 mois. Il a entraîné Trump en simulant avec lui une audition. Voilà le type de questions auxquelles vous devrez peut-être répondre. Et qu'a découvert cet avocat réputé? Que Trump ment tout le temps, invente des choses, a parfois du mal à se contrôler. L'avocat a fini par expliquer au président « Je ne veux pas être assis à côté de vous et vous laisser témoigner, répondre aux questions du procureur. Si je vous laisse faire ça, vous sortirez de son bureau avec, sur le dos, une combinaison orange. » Le genre de tenue que les prisonniers portent aux États-Unis. Et ce conseiller pénal a fini par démissionner parce qu'il pensait que Trump finirait par mentir sous serment, ce qui, évidemment, causerait beaucoup de tort au président. L'avocat a expliqué à Trump « C'est ma responsabilité, en tant que votre avocat, de vous dire que vous n'êtes pas capable d'aller répondre aux questions du procureur Mueller. » C'est d'ailleurs comme ceci que se conclut mon livre. Son avocat lui a dit « Le problème, c'est que vous êtes un menteur pathologique. » Mon journal, le Washington Post, a dénombré plus de 6200 mensonges ou inexactitudes de la part du président. C'est ainsi qu'il interagit avec le reste du monde, en tordant la vérité. Trump est parti en guerre contre les faits, contre ce qui est réel. et il attaque la vérité chaque semaine, parfois deux à trois fois par jour.
Le journaliste américain Bob Woodward, entretien réalisé par Grégory Phillips, correspondant de France Culture à Washington. Et puis l'ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, vient d'être condamné à 3 ans de prison, notamment pour avoir acheté pour le compte du président le silence de 2 femmes qui auraient eu une liaison avec lui. La météo, temps nuageux demain, une dégradation pluvieuse est prévue sur l'ouest puis la moitié sud de la France. Les températures de moins 1 à 9 degrés le matin, l'après-midi il fera 1 à 16 du nord au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.